Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Fréquence Mistral pour cette émission un peu spéciale, Quartier Libre, où nous allons parler de pervers narcissiques ou encore de manipulateurs pervers, qui peut se mettre bien sûr au féminin, comme nous dit notre invité Philippe Rosseau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes homme d'affaires et vous avez créé une association qui s'appelle la Clinique de la Perversion. Et vous allez nous dire qu'est-ce qui vous a mené à créer cette Clinique de la Perversion, cette association. Quel est votre vécu? Qu'est-ce qui vous a amené à ça aujourd'hui?
Alors, tout d'abord, j'aimerais préciser que je suis, c'est vrai, homme d'affaires, mais Je préférerais dire aujourd'hui ancien homme d'affaires, puisque j'ai l'ambition de vivre de cette activité, qui est une activité plus qu'associative, puisque je la veux militante. Par rapport à mon propre cas, ce que j'ai vécu au niveau conjugal, mais aussi, je pense, pour tous les cas de figure, hommes ou femmes, qu'ils soient dans le milieu familial ou professionnel, qui subissent ce genre de prédateurs et de psychopathes.
Une association militante, c'est-à-dire qui va venir en aide, qui va permettre... on va voir par la suite quel est le rôle de cette association et à qui elle s'adresse. Est-ce qu'on fait d'abord un profil de la pathologie du pervers narcissique?
Ben écoutez, à la limite, hein, si vous voulez bien, je pourrais faire une petite incartade sur ce qui m'a mené à me lancer dans cette trajectoire un peu noire et obscure, hein, il faut bien le dire. Parce que j'étais plutôt dans les affaires, hein, qui marchaient assez bien d'ailleurs. Mais malheureusement, quelque chose s'est brisé avec la rencontre de la mère de ma fille. Et surtout, on va dire, à la naissance de ma fille. Alors ma fille, hein, qui a 10 ans à ce jour... Je l'aime comme un père aime sa fille. Le problème, c'est pas du tout mon enfant, mais c'est surtout ce que j'ai découvert au niveau de la normalité et de la dysfonctionnalité de ces personnes-là. J'ai rapidement, d'ailleurs, pu discerner qu'il y avait des choses qui collaient pas dans une relation qui se dit saine et normale. Alors, j'ai eu la présence d'esprit de noter tout ce qui n'allait pas. Je me suis fait une sorte de brainstorming. J'ai noté tout ce qui n'allait pas parce que je trouvais anormal qu'une personne qui, la mère de ma fille, j'ai 54 ans, elle en a 53, elle est cadre administratif. Je trouvais anormal qu'une personne avec un certain niveau d'instruction puisse avoir un fonctionnement aussi puéril, immature et infantile qu'elle pouvait avoir dans l'intimité et dans la sphère privée. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. À ce jour, je sais pourquoi ces gens fonctionnent comme ça, mais à l'époque, je ne le savais pas.
Donc c'est-à-dire que ça s'est déclenché, enfin, c'est des fonctionnements bizarres, suite à la naissance ou longtemps après?
Alors... Le pervers narcissique, si vous voulez, ou la perverse, c'est quelqu'un qui a... ils ont des modes opératoires qui sont, les psychiatres me l'ont confirmé, qui sont standardisés. C'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas entre eux, mais ils fonctionnent tous de la même manière. Il y a quelques digressions, si vous voulez, entre la perversion masculine et la perversion féminine. Mais le schéma standard, il est identique. C'est-à-dire que ces gens-là ont toujours le même processus. Quand vous rencontrez ces personnes-là, ils rentrent dans des phases de ce qu'on appelle de séduction. Alors là, par contre, tout va bien. C'est une rencontre fabuleuse. On se dit, j'ai trouvé la personne idéale. Cependant, ce qu'on ne sait pas, et on le sait bien après, je dirais bien trop tard, c'est que ces personnes-là avancent ce qu'on appelle masqué. Et que ce n'est pas eux que vous voyez au départ. C'est un faux personnage, uniquement, on va dire, pour vous hameçonner et pour vous piéger, parce que vous comprenez très bien qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, selon l'expression consacrée. Et que ces gens-là ont quand même une intelligence machiavélique, je le dis souvent, et d'une une subtilité assez incroyable. Donc ces gens-là attendent, on va dire, leur heure pour pouvoir œuvrer. Mais la véritable œuvre d'un pervers narcissique, c'est de la malveillance. Ce n'est pas du tout de la bienveillance, il ne recherche pas du tout l'amour. Ce qu'il cherche, c'est détruire, et il y a des raisons psychiatriques pour ça. Donc, tant que la dépendance, si vous voulez, de la toile d'araignée n'est pas arrivée, ces gens-là ne font pas de vagues. Dès que cette dépendance arrive, alors, je dirais pour ma propre histoire, cette dépendance est arrivée assez vite, puisque, bon, personnellement, je voulais un enfant, elle aussi. On avait un point commun, ça d'ailleurs, sans ironie de ma part, ça a été le seul point commun, hein, ceci étant. Puisqu'au bout de 4 mois de relation, la mère de ma fille est tombée enceinte. Donc, et 9 mois après, ma fille naissait le plus naturellement possible. Alors là, comme disent les psychiatres experts, la bascule perverse commence à se mettre en place et le personnage change complètement.
C'est-à-dire, alors, avec des exemples concrets, qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, ils sont beaucoup moins agréables, ils sont agressifs, ils sont pénibles, on ne sait plus sur quel pied danser avec eux, ils vous déstabilisent en permanence. Alors, on pourrait passer la palette, hein, de ce que j'appelle, moi, des modes opératoires pervers de ces gens-là. Elle est assez étayée, d'ailleurs, assez subtile et très intelligente. Mais on va dire, pour essayer de le faire simple, cette personne avec qui tout allait bien, qui était gentille, attentionnée, change de tout au tout. C'est-à-dire, c'est de l'agression, c'est des mots très durs. Il y a une communication que j'appelle moi communication perverse, je l'ai déjà utilisée dans mon reportage sur Manosque avec François Malabave. C'est une communication qui est floue et qui mène, si vous voulez, à l'incertitude dans la relation, c'est-à-dire vous ne savez plus sur quel pied danser. C'est très déstabilisant, ça. Hein, on appelle ça de la communication confusionnelle, trouble. On appelle ça de la communication déviante, en termes de psychiatrie. C'est une communication tronquée, vide de sens à la limite de l'interprétation. Vous vous posez des tas de questions, vous dites « qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était super ».
Alors on peut pas mélanger ça avec le blues post-natal
Non. On ne peut pas mélanger ça avec le blues post-natal, comme on ne peut pas du tout mélanger le fait que une personne puisse être à la limite, au départ, calculatrice et après tyrannique pour dominer. Non, on est là. Et j'affirme sur ce que je raconte, on est là dans l'état limite, ce qu'on appelle le borderline en psychiatrie. Et ça, c'est une certitude. Voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre quelqu'un qui est un tyran domestique ou un tyran au travail. Ouais, parce qu'il y en a. On pourrait parler aussi de management pathologique, hein, si on a le temps. Non. Là, on est sur des symptômes de la relation à autrui qui sont dysfonctionnels, qui mènent à la folie de celui qui les perçoit. Voilà. Parce que le but du pervers, pour éviter la folie lui-même, il faut qu'il transfère et qu'il projette cette folie. Donc, il est lui-même, si vous voulez, c'est pour ça qu'on appelle les états limites, il est lui-même à la frontière de la folie. Et pour ça, il utilise un tas de mécanismes retors pour se maintenir. Mais pour se maintenir, il faut qu'il enfonce l'autre.
Et là, alors, vous rentrez vous parlez d'enfoncer l'autre, c'est quoi? C'est avec des mots par rapport à votre paternité ou par rapport à l'homme que vous êtes, par rapport au travailleur?
Par rapport à tout. Par rapport à tout, puisque le pervers narcissique, c'est une arme de destruction massive. Hein, j'aime bien employer des termes un peu forts. C'est ce qui fera ma marque, d'ailleurs, sur toutes les radios. Le pervers narcissique entame une véritable démolition méthodique et programmée de ce que vous pouvez être, tant au niveau intellectuel que de vos habitudes, que de vos amis, que de votre famille, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Il démonte tout d'une manière cynique, préméditée. Voilà. Donc, évidemment que ça fait un peu froid dans le dos. Parce que c'est là, moi, avec le recul, je prends conscience. Hein, parce que j'ai le recul, j'ai analysé, j'ai 4 ans d'études sur ces pathologies. Mais c'est très déstabilisant parce que vous avez connu une personne qui vous a séduit et avec qui vous avez fait des enfants. Toute la complexité, c'est de savoir, c'est de se dire que comment est-ce possible qu'une personne porteuse de la vie, alors là je parle de mon cas, donc on était dans le cas de la perverse, puisse avoir aussi peu de compassion, d'avoir une agressivité sans limite, aucune empathie, du mépris, de l'indifférence et aucune conscience et aucune considération de goût. Voilà. Alors ça, je vous cache pas que tous ceux qui peuvent le vivre, s'ils m'écoutent, c'est très déstabilisant. Alors, les gens qui font la faute, et ils sont nombreux, c'est ceux qui se disent « Oh, avant, elle était comme ça » ou « Il était comme ça, il va revenir ». Surtout que le pervers étant quelqu'un de très malicieux, il fait tout pour vous projeter la culpabilité sur vous. C'est-à-dire que s'il est devenu comme ça, c'est parce que vous, vous avez changé. Voilà, on appelle ça des mécanismes d'inversion, qui est le propre de la perversion. Parce qu'un pervers narcissique, dans le terme pervers narcissique, il y a perversion. Et si on prend la littérature psychiatrique et psychanalytique, sur un plan psychiatrique, la perversion, c'est le plaisir, une jouissance de faire le mal, de détruire, d'anéantir, de jouir du désarroi et de la chute et de la peine de l'autre. Hein, donc là, on est vraiment dans le trouble psychiatrique. Et la littérature psychanalytique de la perversion vient de pervertere en latin, qui veut dire inverser, retourner, détourner, mettre dans tous les sens. Donc, c'est ce que pratique le pervers. C'est-à-dire que dans toute relation, le pervers, c'est quelqu'un qui va systématiquement retourner toute situation à son avantage et à son profit. Bien évidemment, nos auditeurs l'auront compris, c'est au détriment et aux dépens de l'autre. Hein, et au mépris de l'autre. Sans se soucier d'ailleurs s'il y a une gêne, s'il n'est pas content de la situation, puisqu'on est dans un manque total d'empathie, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de considération. Le pervers est un être froid, qui n'a aucun sentiment, aucun amour, et je dirais plus loin, aucune humanité. Hein, c'est d'ailleurs Marie-France Irigoyen, qui est une grande psychiatre là-dessus, qui dit que physiologiquement, ce sont des gens humains. Puisqu'ils ont un cœur qui bat, il y a du sang qui circule dans les veines, mais ils ont le fonctionnement d'un robot, d'une machine, qui est fait pour imiter la vie sans la vie. Alors ça, c'est très beau, parce que ça résume tout à fait le pervers. Quand vous êtes au contact d'un pervers ou d'une perverse, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a pas de spontanéité, ces gens-là. On sent que tout est calculé. On sent qu'ils dupliquent des comportements et des réactions qu'ils ont observés par ailleurs, mais la spontanéité n'existe pas. Ça, c'est pour nos auditeurs, s'ils sont confrontés à ce genre de malades mentaux, c'est quelque chose qui doit alerter. Voilà. Je voyais bien que la mère de ma fille avait des comportements comme un robot. Je pense que je résume bien. D'ailleurs, Marie-France Irigoyen, on peut la citer puisque c'est une référence. C'est une machine à broyer, à détruire, à écraser, parce qu'ils ne peuvent survivre, exister, et ils ont ce sentiment d'être qu'à cette condition. Alors, vous voyez que ça, c'est effrayant. Hein.
Vous avez vécu quelques années avec cette femme.
Alors oui, écoutez, tous les psychiatres vous diraient que la relation avec un pervers ou une perverse est forcément chaotique. Moi, je suis resté, on va dire, de 2006 à 2014 uniquement parce qu'il y avait ma fille, parce que je ne vous cache pas que je serais parti bien avant, parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, la dépendance, le lien, ils comptent beaucoup là-dessus, ces gens-là. Mais même malgré ça, ça devient, y a une pression qui se veut exponentielle, ces gens-là deviennent invivables, c'est un enfer à la maison. Hein? D'ailleurs, ce qui est bien, d'ailleurs, c'est de donner des exemples.
Oui, c'est ce que j'attends de vous.
Voilà.
Des exemples concrets.
Des exemples pratiques.
Pour qu'on puisse imaginer
alors,
comment on se rend compte.
Je vais vous en donner un. Et j'ai pas du tout de... Comment dirais-je de... je cherche mon terme de... Ah, c'est pas de moi, mais je n'ai pas du tout de... Bon, ça va me revenir. Puisque c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma pratique conjugale de couple, de mérite, voilà, ça m'est revenu. Je n'ai pas du tout de mérite, puisque je l'ai connu en live. Hein. Ce n'est pas un psy qui m'a donné un référentiel. Alors, je vais vous donner un bon exemple. Et c'est peut-être le meilleur, parce qu'il caractérise bien la démence du pervers. C'est-à-dire que le pervers ou la perverse, hein, j'insiste bien, c'est quelqu'un qui va créer des conflits artificiels. Pour n'importe quoi de la vie de tous les jours, même pour des choses anodines. Et c'est quelqu'un qui est tellement malin qui, de par ses exactions et l'agression qu'il fait à l'autre, essaie de le faire transagir, ce que j'appelle moi, le faire sortir de ses gongs, donc générer chez lui de l'agressivité, de l'émotion négative et de la colère. Et je vous promets qu'ils y arrivent. Hein, parce que si moi je vous agresse pendant un quart d'heure, je pense que vous allez réagir. Hein. Et qui, de par leur perversion, donc comme j'expliquais tout à l'heure, de retournement de situation, elle va vous dire, il ou elle, mais c'était mon cas de figure, donc je vais dire elle, ben voilà, tu es vraiment un être invivable, c'est impossible de vivre avec toi, tu me pourris ma vie et tu m'as gâché mon week-end. Avouez que c'est un bon cas clinique de perversion. Hein. Quand vous avez... parce que la perversion ne se mesure que sur la régularité des attaques et des exactions. On peut être pervers, si vous voulez, d'une manière spontanée, d'une manière, on va dire, de temps en temps. Mais qu'est-ce qui fait la marque de fabrique du pervers narcissique ou de la manipulatrice perverse, ou de l'état limite borderline? C'est la récurrence. C'est-à-dire que tous les jours, à petite dose, ils vous instillent et ils vous inoculent leur folie. Voilà, parce que le but, vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, ces gens-là transfèrent leur démence pour éviter eux-mêmes de sombrer. Il faut que ce soit l'autre qui porte toute leur pathologie. Et ils y arrivent bien d'ailleurs, hein, puisque des victimes que rencontrent les psychiatres, les psychanalystes ou que nous-mêmes nous avons rencontrées, ce sont des gens qu'on retrouve en miettes. Hein. Tous les pans entiers de leur psyché, de leur psychisme, de leur corps, etc., ont été endommagés. Hein, on pourrait rentrer dans le détail comment pratiquent ces gens-là à petite dose. Hein, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec la communication perverse, parce que c'est l'arme le plus redoutable du pervers. Hein.
Est-ce qu'on ne peut pas essayer de dialoguer? Vous n'avez pas essayé de...
Impossible.
D'avoir des arguments
Non, impossible, parce que... bon... Là, ce que je voulais pas faire, je vais peut-être obligé de le faire, c'est on est obligé de rentrer un peu plus dans des analyses psychiatriques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pervers narcissique est un état limite, mais que l'état limite est une psychose. Bon, c'est-à-dire que le principe de la psychose, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la personne et autrui. On appelle ça l'indistinction et l'incapacité de reconnaître une différence. Donc à partir du moment où c'est que vous êtes une partie d'eux-mêmes, pourquoi communiquer avec un miroir, puisque l'autre n'est qu'un reflet de leur propre personnalité? Alors là, comprenez que quand on rentre dans des débats pareils, on a un peu froid dans le dos, hein. Hein, parce que le pervers narcissique est seul, en fait. Il est seul. Il est seul avec lui-même. Donc comment voulez-vous communiquer? On ne communique pas avec un miroir, puisque l'autre n'est qu'un reflet dans un miroir. Et là, on en vient à la légende de Narcisse, puisque on parle de narcissisme, mais la légende de Narcisse, nos auditeurs la connaissent, c'est celui qui croit voir son reflet dans l'eau, mais ce reflet s'estompe, il s'y perd, et il est obligé de projeter. C'est-à-dire, alors, il y a deux versions. Il y a cette version et celui qui tombe, telle la légende de Narcisse bis, on va dire, amoureux de son propre reflet dans l'eau, mais là, on va dire dans le miroir. C'est-à-dire que... C'est pour ça que la chanson de Jean Soultès est très bonne. ces gens-là s'aiment à travers l'autre, parce que cet autre, c'est eux. Mmh. Alors, vous voyez que là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus... ça fait froid dans le dos. Hein. Et là, si nos auditeurs sont confrontés à des pervers ou des perverses narcissiques, ils se rendront compte que s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de bilatéralité, c'est pour ces raisons-là. C'est-à-dire que l'autre n'est qu'une partie d'eux-mêmes. On est, je le dis, je le maintiens, puisque j'ai l'aval des psychiatres, c'est une psychose. Donc comprenez très bien qu'on est dans le trouble sévère et qu'avec ces gens-là, la seule solution, c'est la fuite. Hein. Mmh.
C'est ce que vous avez fait.
C'est ce que j'ai fait. Alors, avant, j'aimerais quand même... Parce que beaucoup de personnes nous demandent une définition détaillée du pervers narcissique. Si vous me le permettez, je vais la donner aujourd'hui. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'a aucune entité propre ni personnalité interne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'existe pas, qui n'a pas de vie intérieure. C'est donc pour ça qu'il cherche cette âme, ce reflet et cette image dans le regard de l'autre. Bon. C'est donc une personne gravement malade, on en conviendra, qui vit par procuration, c'est-à-dire qui vit par l'intermédiaire et à travers l'autre. On est dans la psychose. De surcroît, ces gens-là se sont construits sur ce que j'appelle moi un vide sidéral à l'intérieur. C'est-à-dire que ce que j'appelle moi, ou les psys appellent les psys, hein, du vide chronique ou du vide existentiel. C'est-à-dire qu'ils sont dénudés de toute empathie, de tout sentiment, de toute humanité. Ils sont inaptes à reconnaître, percevoir, identifier, gérer la moindre émotion. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie de tous les jours? Ils simulent. Ce sont des excellents comédiens. Parce qu'ils sont assez psychologues, c'est une ironie, et ils observent les gens normaux et ils dupliquent des comportements, des ressentis. Ils font ça toute leur vie. Alors, je termine ce portrait que j'aimerais compléter aujourd'hui. Cette réalité étant tellement insupportable que ces gens-là sont obligés de créer une réalité parallèle, une réalité alternative. Et c'est pour ça qu'ils s'inventent un personnage surpuissant, parce que le pervers narcissique est toujours très autoritaire. Hein. Il faut qu'il écrase et qu'il domine. Mais c'est un faux self, ce qu'on appelle en psychiatrie, puisque le vrai, il est quasiment inexistant. Hein. Il se crée donc cette réalité alternative fait d'illusions et d'apparences. C'est là d'ailleurs, moi aussi, que je me suis rendu compte que la mère de ma fille me sortait des choses de la vie courante, mais qui n'étaient pas. Vous avez l'impression de quelqu'un qui vit dans un monde schizophrénique, hein, dans une bulle. Elle me disait des trucs, mais ça ne s'était pas passé. Bon. Il crée une réalité donc alternative fait d'illusions et d'apparences. Le danger, c'est qu'ils vous y font plonger. Hein, parce que le but du pervers, c'est les gens qui sont normaux, il faut les réduire à la normalité. Hein. Voilà. Pour alimenter ce personnage surpuissant de toute puissance. Voilà. Parce que, et là on est sur la clé et le fin du pervers narcissique, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est un être immature, qui est resté bloqué à l'âge infantile. C'est donc... que ce soit la mère de ma fille ou d'autres pervers, ce sont des enfants dans des corps d'adultes. Alors vous imaginez les dégâts que ça peut faire quand vous avez quelqu'un de 50 ans avec une immaturité figée. Psychiatres disent que sur certaines fonctions cognitives, l'immaturité, le développement, c'est figé à l'âge de 4-5 ans. Hein. Ah ouais, donc... Et puis on s'en aperçoit. Hein. Je suis persuadé que les auditeurs, là, s'ils nous écoutent, ils comprendront de suite. Hein. Pour terminer, donc ça c'est la phase la plus terrible pour terminer ce portrait robot peu reluisant. Ces gens-là, donc, pour éviter la folie et la démence, puisqu'ils sont à la limite, ils transfèrent cette folie chez les autres. Voilà. Alors, et ce, dans un climat complètement délétère, La vie avec un pervers narcissique, c'est toujours, on pourra vous le confirmer même si vous avez des témoins ou des auditeurs, c'est toujours conflictuel, c'est toujours des tensions et des stress chroniques, c'est toujours de la peur, de la crainte, de l'insécurité fictive et imaginaire. Tout est créé pour l'illusion. Parce que c'est dans ce chaos et ce cloaque qui se maintiennent. Mais l'autre, il perd ses propres repères. Quelqu'un de sain ne peut pas vivre dans ce domaine. Voilà. Parce que le pervers, lui, il est comme un poisson dans son bocal. Et là, il entame cette phase de destruction méthodique de la personne qu'il a en face. Si c'est un patron, ça peut être un employé. Mais le plus redoutable, c'est dans le milieu conjugal parce qu'il n'y a pas de témoin. Alors là, c'est de la destruction massive. C'est-à-dire que tous les pans de votre identité, de votre personnalité, c'est méthodiquement détruit. D'ailleurs, je vais essayer de résumer assez rapidement. Le pervers narcissique étant incapable de jouir de son corps empêche la jouissance du corps de l'autre. Le pervers narcissique étant prisonnier de la rigidité de ses mécanismes de défense empêche la liberté, l'indépendance et l'autonomie de l'autre. Et n'ayant pas d'identité de personnalité, il cherche absolument à détruire cette identité dans l'autre. Vous voyez. On est dans un profil noir. Hein. Je vais essayer de terminer là. Dans cette entreprise de démolition froidement calculée, bien évidemment, on vous pousse vers le bas en attaquant régulièrement votre narcissisme, votre estime de soi, votre confiance et votre amour propre. D'ailleurs, qu'à la sortie, quand vous sortez d'une relation avec ces gens-là, vous n'êtes plus rien si vous n'avez pas la force de faire ce que j'ai fait moi.
C'est-à-dire de fuir.
Ah, il faut.
Et est-ce que vous avez essayé d'en parler avec des amis proches ou avec un thérapeute pour essayer de comprendre?
Alors, mon cas, il est peut-être un petit peu particulier. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est que, de par mon niveau d'études, j'ai quand même un discernement. J'avais déjà des connaissances en psy, pas en psychiatrie, hein, ou pas dans la perversion telle que je les ai à ce jour, parce que voilà, j'ai pas repris la fac, mais j'ai 4 ans d'études. Hein. J'ai perdu le fil de...
Et bien moi aussi, du coup. On va faire une petite pause musicale et on reviendra sur... On parlait de solutions éventuellement, il y avait la fuite, il y avait le fait de consulter quelqu'un.
Ah voilà, je reviens. Mon cas est un peu particulier dans le sens que j'ai pu discerner pendant la relation ce qui n'allait pas, l'anormalité, le dysfonctionnement avec la mère de ma fille. Et j'ai commencé, donc le net est un bel outil de m'informer sur le net, parce que sur le net il commence à y avoir des liens quand même, hein. Il y a des sites qui sont très intéressants. Et puis j'ai consulté des grands spécialistes, comme Jean-Charles Bouchoux, dont je vous ai porté le livre. J'ai rencontré aussi Thomas Gentil, auteur, qui est spécialiste des perversions. Et quand vous décryptez avec ces gens-là, vous savez, je me suis fait une sorte de référentiel, hein, très, très professionnel. Et quand vous rencontrez ces gens-là, ben, vous vous apercevez que quand on vous sort le diagnostic, c'est sans appel. Moi, je me souviens, Jean-Charles Bouchoux m'a dit « Vous avez des enfants ?» J'ai dit « Oui, je me souviens la grimace qu'il a fait. Hein. » Mm-hmm. Voilà, parce qu'il vaut mieux ne pas avoir d'enfants avec ces gens-là. Bon, c'est pas mon cas. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est quand même... J'ai quand même un certain discernement, j'ai une force mentale. Mais j'avoue que c'est assez subtil, hein, puisque le pervers vous maintient dans des écrans de fumée confusionnels, où c'est que vous doutez, tout est vague, tout est flou, vous êtes dans l'incertitude, ce qui l'arrange, puisque son but, lui, c'est que sa stratagème ne soit pas dévoilée. Mais ça peut durer des années. Et au fil de ces années, comme vous n'êtes qu'une proie, hein, dont il se nourrit, hein, excusez-moi l'expression, parce que le pervers narcissique ne se nourrit que du narcissisme des autres. Il n'en a pas, lui. Donc il ne peut puiser chez l'autre pour essayer de se remplir, puisque c'est un être vide. Alors je vous rassure de suite, hein, c'est ce qui fait leur dangerosité, c'est qu'ils ne peuvent pas se remplir, ces gens-là. Ils sont comme un tonneau qui est troué. Si vous y mettez de l'eau, avec le trou, il sera toujours vide. Ils sont structurés sur du vide, un vide sidéral, et ils le resteront toute leur vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont dangereux, parce qu'ils font de la surenchère systématique sur des nouvelles proies. Voilà. Mais ils n'ont pas le discernement de voir qu'ils ne peuvent pas accumuler ces soi-disant qualités qui puisent, qui spolient chez l'autre. Parce que le terme spolier et voler, c'est plutôt le terme. Hein.
On va faire une pause musicale et on se retrouve juste après. Philippe Rosso donc, nous parle de pervers narcissique. Merci. On écoute Confidence pour Confidence, une chanson donc, de Jean Schultes que vous avez choisi pour nous aujourd'hui.
Je me fous
Et on revient donc à propos de la perversité ou la perversion narcissique, les pervers narcissiques, avec Philippe Rosso pour nous en parler. Donc il nous a parlé de son, en première partie d'émission, de son historique à lui, de son vécu, c'est ça, hein, Philippe Rosso.
Tout à fait.
Donc on voit bien que c'est une maladie
par entière.
Et donc vous parliez d'agressivité tout le temps et qui a soit vous contrez l'agressivité et vous êtes épuisé.
Si je peux me permettre de vous couper, oui. Parce qu'il y a toujours de la subtilité dans le pervers narcissique, ils alternent des périodes d'agressivité avec des périodes qui sont beaucoup plus cool. On appelle ça chauffer, souffler le chaud et le froid. Mmh. C'est très déstabilisant là aussi parce que on se dit qu'une personne qui est mauvaise, agressive, elle l'est du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tandis qu'eux alternent. Comme ce sont des gens qui n'ont pas, si vous voulez, de personnalité propre, ils n'ont pas de consistance. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme une pâte à modeler et en fonction des circonstances, ils s'adaptent. Ce sont de véritables caméléons à multifacettes. S'ils sentent qu'il faut récupérer un petit peu la proie, ils vont être gentils. S'ils sentent que la proie est bien ferrée, ils vont rentrer dans une période d'agressivité déstabilisante. Et puis là, la palette est très large, hein, puisque ça peut aller aussi... il peut y avoir de l'agressivité, si vous voulez, indirecte. Je vais vous donner un exemple là aussi. Bon... Je vais prendre du vécu. Hein. Elle savait que bon, j'étais quelqu'un de bon vivant, qui aimait bien sortir, les restaurants, etc. Elle a tout fait pour m'empêcher d'aller au restaurant. Elle me disait toujours « Oh, mais notre fille s'en fout des restaurants. » Alors que ce n'était pas vrai. Elle adorait aller au restaurant. Vous voyez, ce qui peut vous faire plaisir, il faut le détruire. Ça, c'est un autre exemple. Hein. Mm-hmm. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui aime faire du tennis. Il ne faut plus qu'il fasse du tennis. Hein, si c'est le ping-pong, plus de ping-pong, tout ce qui a trait à votre vie, il faut que ce soit une chaîne de ruines. Alors,
voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes en procédure, parce que ça fait donc, vous me disiez, 21 mois que vous n'avez pas vu votre fille.
À ce jour, tout à fait.
Et vous êtes venu avec un livre, est-ce que vous avez le souhait de nous en parler et peut-être de nous lire un extrait ou...
Alors, ça serait un peu fastidieux à l'antenne.
Oui.
C'est un livre de...
Donnez la référence, alors.
De Jean-Charles Bouchoux, mm-hmm. hein, qui est un collaborateur qui va travailler avec nous dans notre association, puisque dans les colloques, les séminaires que nous allons programmer, il va certainement intervenir. Je l'ai eu hier au téléphone. Et septembre, hein, il faut absolument qu'on ait des colloques. Donc, il est docteur en recherche psychanalytique, médecin psychiatre, écrivain. Il fait des conférences internationales, il y a des vidéos YouTube sur le net, donc on peut facilement voir la pointure de Jean-Charles Bouchoux. Mais ce livre-là que j'ai bien parcouru, il a l'avantage, parce que vous savez que les psys ils ont toujours un peu un vocabulaire un peu échafaudé, l'avantage de Jean-Charles Bouchoux, c'est qu'il se met à la portée du grand public pour expliquer qui sont les pervers narcissiques, comment ils fonctionnent, comment leur échapper. Alors, ce que je pourrais dire quand même, parce qu'il est intéressant qu'on éclaire nos auditeurs, parce que j'entends ça et là de dire « Oh, mais les pervers narcissiques, c'est une mode, on en entend parler de partout, on les voit partout. » Non. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui fonctionne à un mode opératoire bien précis, qui a des mécanismes de perversion narcissique bien précis et qui sont répertoriés par les psys, comme un référentiel. Ce référentiel, nous, on va l'éditer pour le fournir à nos victimes. Et quand vous listez comme un référentiel, vous évaluez la relation, la qualité de relation que vous avez avec votre conjoint ou votre patron, votre supérieur hiérarchique. Si, dans cette relation, il y a ce type de posture, de réaction, de comportement, il n'y a aucun doute. C'est de la perversion narcissique. Hein, parce que les tests qu'on a eus dans mes procédures, où c'est qu'on vous passe par des experts dont la compétence me laisse pantois bien souvent, c'est-à-dire qu'on s'entretient 2 heures avec vous, on vous raconte votre vie, ils vous font passer des tests ou projectifs ou psychométriques pour votre test de personnalité, j'y crois pas. Par contre, c'est simple, vous avez un référentiel qui liste des comportements anormaux et dysfonctionnels, ou vous les retrouvez dans votre relation, ou vous les retrouvez pas. Si vous les retrouvez, il n'y a aucun doute. C'est fait par des psychiatres, c'est fait par des psychanalystes, hein, qui ont une sacrée réputation. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai listé. Ça ne trompe pas. Hein. Ça ne trompe pas. Il n'y a aucun doute. Alors, pour terminer, parce que ça, c'est un point important aussi, pour terminer sur l'aspect vogue. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'agit pas n'importe où, n'importe comment. C'est-à-dire que le boulanger du coin, le restaurateur, l'esthéticienne pourront fréquenter ces gens pendant 30 ans, ils ne verront jamais rien. Voilà. C'est pas le collègue qu'on rencontre sur la place du village, on discute le coup, on boit un coup, ils ne pourront jamais rien voir. Ces gens-là fonctionnent par cibles bien précises et surtout dans des endroits bien précis. Et ces endroits bien précis sont où ? Sont au travail dans l'entreprise.
Et à la maison.
Et à la maison dans le phénomène familial et de couple. Parce que là, il y a une proximité et une régularité qui fait que les mécanismes pervers narcissiques peuvent se mettre en place.
Donc la solution, c'est quoi ? Courage, fuyons ?
Ah oui. Oui. Oui.
La première solution.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces gens-là ont bâti toute leur personnalité sur le déni. Alors le déni, c'est le propre de la psychose. Hein. Ils vont vous mentir avec... ils vont faire des choses et vous mentir en vous disant que c'est vrai, alors que vous avez la preuve que c'est faux. Il y a un déni permanent, même sur des choses les plus graves. Donc ça, le déni propre de la psychose, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? La relation à autrui est complètement entravée, puisqu'ils ne sont que sur des mécanismes rotors uniquement pour vous couler. Il n'y a rien de sain. Aucune situation saine, équilibrée, harmonieuse n'est possible. Aucune communication claire, saine, authentique, ouverte et constructive n'est possible. Donc dans un couple, si l'harmonie n'est pas possible, si la communication n'est pas possible, ben, qu'est-ce qui vous reste ? Il vous reste le départ.
Alors, on parle de donc les suites, c'est la seule issue, le départ. Les conséquences, ça peut mener donc à la dépression et au suicide éventuellement.
Ah oui, oui, parce que le but du pervers, c'est de transférer sa folie. C'est-à-dire que il instille au compte-gouttes sa démence, ce qui est excessivement préjudiciable sur un psychisme qui est sain et équilibré. Hein, il faut le savoir. C'est un poison, c'est un venin, hein, à petite dose. Hein. Je préférerais d'ailleurs me faire mordre, je pense, par un serpent. Hein. C'est quelqu'un de hautement toxique et de nuisible. Donc il transfère, c'est une acrobatie psychiatrique, hein. Il se sauve comme ça. Hein. Tu vois, je suis bien, c'est toi qui es fou. Voilà. Et en plus, il est dans le déni puisqu'il se déculpabilise. Mais vous imaginez...
C'est sa seule issue aussi. Voilà.
C'est sa seule issue. Mm-hmm. Pour survivre et exister, enfin, un faux semblant d'existence, il est obligé d'appuyer sur la tête de l'autre et le pousser vers le bas. Alors, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est assez fragile ? Ben, c'est la chute libre, c'est la dépression, et vous avez des gens qui ne remontent jamais la pente. C'est en miettes à l'hôpital. Alors, on ne parlera pas de statistiques aujourd'hui, hein, puisqu'on dit toujours, j'entends ça et là dans les associations, la violence psychologique, qu'elle soit perverse, etc., c'est le propre, c'est l'apanage de l'homme. J'arrête de suite. Moi, je peux vous dire qu'il y a des femmes qui sont autant destructrices que des hommes et qui se suicident un homme à peu près tous les... C'est un psychiatre qui m'a dit ça, tous les 10 jours. Hein, sous les exactions et les coups de sa femme. Voilà. Mais ça passe sous silence, ça. Hein.
Philippe Rosso, l'heure tourne. J'aimerais que vous parliez de votre association, la Clinique de la Perversion, puisqu'il y a plusieurs objectifs de cette association. Lesquels ?
Alors, bien évidemment, hein, ce qu'on vient de dire en amont est à l'origine du montage de cette association. Alors, il va y avoir trois grands volets. qu'on a peu décrit avec François Malabave sur Manosque, parce qu'on n'a pas eu le temps, il y a ce que j'appelle, moi, le volet grand public, c'est-à-dire des gens qui sont ou victimes ou qui veulent s'informer sur sur tous ces phénomènes destructeurs et nuisibles. Alors, qui dit phénomène, dit les personnes qui constituent ce phénomène, bien évidemment. Donc là, on prévoit, sur tous les secteurs géographiques d'ailleurs, hein, des séminaires, des colloques, des groupes de parole, des réunions, pour sensibiliser, informer, aider et soutenir. Alors, ça peut être sur un plan collectif comme sur un plan individuel. Hein, puisque les psys qui travaillent avec nous ont aussi leur propre cabinet, donc on peut rentrer dans quelque chose d'un peu plus confidentiel et les envoyer dans leur propre cabinet. Ça, c'est l'information, ce que j'appelle, moi, grand public.
D'accord.
Hein, c'est-à-dire qu'il faut que la perversion, qui est en règle générale une nuisance occulte et obscure, monte au grand soleil, je pourrais dire. Mmh. Voilà.
Alors ensuite, il y a une partie formation. Je vous presse un peu, parce que si on veut parler de vos projets ensuite...
Oui, il y a le volet formation, parce que tous les professionnels qui sont de près ou de loin, qui travaillent avec ces thématiques ou sont touchés par ces victimes, de par leur travail, il faut qu'ils soient formés à ces pathologies, c'est-à-dire comment ils fonctionnent, leur posture, les stratégies à adopter. Alors, je pense à qui comme professionnel ? Je pense aux avocats, je pense aux juristes, je pense aux coachs. Je pense aux magistrats, que pour certains que j'ai rencontrés, ils en ont bien besoin. Hein, je ne citerai pas le tribunal. Hein. On me dit ça et là qu'ils sont demandeurs. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il faut un peu la politique de l'autruche. La police, la gendarmerie. Parce qu'un conflit avec un pervers ou une perverse narcissique, ça ne peut pas être un conflit qui se règle à l'amiable. Ce n'est pas possible. Et là, je sais de quoi je parle. C'est forcément quelque chose qui s'enlise, qui rentre dans le dur, sur la durée. Donc, inévitablement, vous avez affaire à des avocats, à des magistrats et à des gendarmes. Bon, la gendarmerie ni la police ne sont pas formés à ce jour. Prévention auprès de l'éducation nationale aussi. Voilà. Donc là, avec les partenaires avec qui je travaille, on a prévu donc des formations assez brèves. Parce que cerner, si vous voulez, pour un avocat, les modes opératoires d'un pervers narcissique, il n'y a pas besoin de 6 mois de formation. Hein. Il était question qu'on fasse un CD fut un temps. Il n'est peut-être pas abandonné, d'ailleurs, l'idée. Mais si on fait un module avec des avocats, sur une journée, ils peuvent être bien formés sur la perversion narcissique. Parce que leur but à eux, ce n'est pas de devenir psychiatre, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est le volet formation. Et après, le troisième volet, ben, c'est le volet le volet dans lequel je suis.
Procédure de justice.
C'est d'ailleurs tous les gens, hommes ou femmes, qui sont en procédure de justice avec ces dangereux psychopathes. Alors là, il y a plutôt intérêt d'avoir l'avocat qui est bien formé, le conseiller qui connaît bien d'ailleurs les arcanes de la justice d'un côté, et puis ce genre de malade de l'autre. Parce que le pervers par excellence, s'il est surnommé manipulateur, c'est qu'il manipule tout le monde. Hein. La justice, les avocats. Moi, je passerai d'ailleurs un petit coucou à ma fille, parce qu'elle est manipulée depuis des années. Les enfants y passent aussi. C'est un mode de la relation à autrui, la manipulation. Ils ne connaissent que ça. Hein. Quelque chose de sain, de vrai, d'authentique, ça fait pas partie de leur vocabulaire. Alors là, le volet, ben on a déjà des contacts avec des gens. Hein. Moi, j'ai quelques affaires là qui sont sordides. Hein.
Bon. Alors, est-ce que on va revenir à cette association. Donc, vous nous parlez de ces trois volets. Est-ce que les gens peuvent adhérer ? Comment ils peuvent vous joindre ? Combien de membres ? Enfin, quelques
alors,
infos.
Le site qui devait être prêt, bon, est en construction. Donc, je pense qu'il sera plutôt prêt à la rentrée, hein, le site Internet. Autrement, ils ont les coordonnées classiques de ce que j'avais donné à Manosque. Pour le fixe, c'est le 09 65 11 65 33. Le portable 06 58 51 82 65. Et pour le mail, rosso 1000 en chiffres, hein, 1 et 3 0, @orange.fr. Il est question aussi, puisqu'on parle de communication, que l'on sorte un magazine trimestriel sur la perversion. Donc trimestriel, donc 4 parutions par an. Voilà. Et ce, sur tous les secteurs géographiques, qui fonctionnera donc avec un rédactionnel. On pourra programmer donc les colloques sur chaque secteur. Il pourrait y avoir des annonceurs qui pourront se servir de notre support pour leur propre métier, mais enfin, bien souvent lié, je pense, à tout ce qui est juriste, conseil et psy, sauf les psychiatres qui ne peuvent pas faire de publicité. Et puis, comme un blog ou un forum de discussion, où c'est que des victimes, c'est important, témoignent de ce qu'ils ont vécu et qu'ils puissent avoir des réponses à leurs questions. Parce que c'est ça qui est important. J'ai une question, moi c'est ce que je me suis dit, elle ne peut pas rester sans réponse. Parce que quand vous, par exemple, puisque vous aimez bien le côté pratique, quand vous vous séparez d'un pervers narcissique, si par exemple vous allez de suite comprendre, je vous dis, mais vous êtes folle, je pars parce que vous êtes folle, enfin, imaginons le couple, parce que tu es folle. Voilà, le schéma, la posture classique du pervers narcissique, ça, nos auditeurs peuvent s'en assurer. Si c'est un pervers narcissique, il ne répond pas. Il reste dans le mutisme. J'ai jamais vu quelqu'un de normal qu'on traite de dément, de fou, d'anormal, quelqu'un qu'il faut fuir, qui reste dans un mutisme total. Si vous avez ce cas de figure, vous pouvez être certain que vous êtes dans la perversion narcissique. Et d'ailleurs, moi je me souviens, c'est exactement ce qui s'est passé quand je lui ai dit « on se sépare ». Mais, dernière pirouette manipulatrice, elle m'a dit « tu dis pas au revoir en partant ?» C'est pas mal ça. Mmh. Hop, on essaie quand même de récupérer devant ma fille, parce que ma fille était présente. Mmh. Un bon conseil à nos auditeurs, hein. Si c'est décelé, faut prendre le large. Hein. Attention aux enfants.
Alors, Philippe Rosso, vous avez donc des projets avec votre association de mettre en place des séminaires, des colloques, des formations sur ce sujet douloureux, sujet avec des pulsions de mort en exergue. Et puis, vous avez aussi un projet d'écriture vous-même.
Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible, et c'est d'ailleurs mon conseiller que j'ai rencontré il y a 2 jours sur Marseille, hein, qui m'a donné l'idée, parce que lui-même a un parcours un peu identique. Il a eu de gros problèmes avec la mère de sa fille, hein, et il m'a dit, je vais écrire un bouquin parce que c'est des histoires qui se vendent bien.
Bon. Au-delà de tout, c'est une bonne idée.
Au-delà de toute notion mercantile, bien évidemment. Et bon, ça peut mettre du beurre dans les épinards. Oui, c'est pas impossible que... Parce que, vous savez, c'est pas faire un livre pour faire un livre. Ces gens-là ont la capacité de vous ruiner une vie. Je le dis, je le répète, ils ont une capacité, sans coup faire rire, sans que ça les touche. Hein. Ça les touche pas parce que le malade, c'est l'autre. Si ça n'a pas collé, c'est forcément de ta faute. Hein. Donc, eux, ça ne les dérange pas. C'est de la schizophrénie. Hein. Je veux dire, ils sont dans une bulle. Je ne suis pas concerné. Bon. Quand vous avez quelqu'un qui, avec un mépris total, une malveillance, vous détruit, alors que c'est la mère de votre fille, elle porte la vie. Ça doit être la lumière. Vous savez, c'est ce que je dis, moi, un peu aux magistrats que je rencontre. L'idée de la blanche colombe, elle est bien passée, hein. Elle est bien passée, parce que, pour terminer, on pourrait terminer sur ce que va devenir ces phénomènes, parce que je pense que c'est une bonne conclusion. À ce jour, j'estime que c'est le mal du 21e siècle, et je pèse mes mots, je l'affirme. C'est d'une dangerosité extrême, c'est insidieux, c'est pernicieux, c'est fourbe, c'est sournois, c'est tout fait dans l'obscurité. C'est ce qu'il y a de plus redoutable. C'est ce qu'il y a de plus redoutable. Quand vous voyez une arme, si vous êtes braqué avec une mitraillette, vous voyez que c'est une mitraillette. Là, vous êtes en danger, il n'y a rien qui est pointé contre vous.
Rien de visible.
à rien de visible. Donc, c'est assurément le mal du 21e siècle. C'est un véritable, à ce jour, fléau social qui gangrène notre société tant sur un plan des entreprises que de la famille. Et je dirais que l'autre fléau, j'en profite, c'est la justice qui est incompétente à ce niveau-là. Et je pèse mes mots. Voilà. Parce que quand on se permet de juger dans une affaire où il y a des enfants en jeu, je crois qu'il faut avoir un certain niveau de compétence. Donc la justice, je termine. C'est peut-être un peu polémique, mais je pense qu'il faut que ça sorte. La justice est faite pour apporter des solutions, des remédiations, apaiser les tensions, les crispations. Elle n'est pas faite pour générer des drames familiaux. Et la justice, notamment à Digne, c'est ce qu'elle fait. Je pense que ces gens-là sont responsables de drames familiaux quand ils arrivent. Et mon conseiller qui navigue sur tout l'Hexagone me dit « Mais mon pauvre, il n'y a pas que Digne. »
Pour vous, c'est une sorte d'exutoire d'en parler et de,
tout à fait.
Et de mettre ça au grand jour.
Ah, les psys que je côtoie, qui sont devenus des amis d'ailleurs, m'ont dit « C'est ta thérapie. » Non seulement c'est ma thérapie, c'est multifonction. C'est ma thérapie, je veux en faire mon métier. Alors, c'est pas de l'opportunisme, parce que j'adore la psy. On ne peut pas laisser... Bon, moi, je vais régler mon affaire. J'ai la force pour ça, j'ai les conseillers, j'ai les équipes pour ça. Ma fille, je vais la récupérer. Mais vous avez des gens que je trouve dans des détresses abominables. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. À l'ancienne TGI de Digne, j'ai vu un brave homme, puisque bon, j'étais en procédure régulièrement, qui visiblement était désargenté. Il était en bas de l'escalier avec son carton, visiblement victime d'une perverse narcissique. Il était aux abois, peu cher. Il m'a fait peine. Je lui avais donné mon mail, il m'avait donné le sien. Vous savez, la seule personne qui est venue le voir, c'était la police des renseignements généraux. Ah, pour insuffler à quelqu'un qui est au bord de qui est au bord du désarroi et du gouffre un peu de bien-être, c'est vrai que la police, c'est ce qu'il y a de mieux.
Philippe Rosso, on va rester sur ça. N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner vos dates et lieux de séminaires, de colloques. Et
alors,
puis,
oui. Par contre, ce qu'on pourrait...
Il reste vraiment une petite minute.
Oui, puisque on parle de ça, les trois thèmes qu'on aimerait aborder dès septembre. Si les gens sont intéressés, peuvent déjà nous appeler pour s'inscrire, se renseigner et s'inscrire. Il va y avoir la perversion dans le couple, c'est un sacré programme. Il va y avoir les mécanismes pervers narcissiques et il va y avoir la manipulation mentale et l'emprise. C'est-à-dire comment s'opère la manipulation mentale et l'emprise.
Voilà. On va s'arrêter là. Je redonne l'adresse mail rosso, R-O-2-S, comme Sophie, O, 1000 en chiffres, 1 et 3 0, @orange.fr pour vous écrire et en savoir plus peut-être. Et puis sinon, un numéro de téléphone, deux numéros de téléphone, le 09 65 11 65 33. Je répète, 09 65 11 65 33 ou encore un portable 06 58 51 82 65. Je répète ce dernier numéro, 06 58 51 82 65. Philippe Rosso, merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir.